Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Entamons aujourd'hui une nouvelle série sur les grands conquérants de l'histoire et sur la puissance économique de leurs empires. Avant de parcourir les déserts d'Arabie aux côtés du calife Omar, compagnon de Mahomet, puis d'arpenter les steppes russes avec l'armée de Catherine II, direction la Macédoine, où naît au IVe siècle avant notre ère le plus grand conquérant de l'Antiquité. Son empire s'étalera des Balkans jusqu'en Inde, stimulant le commerce et la circulation de la monnaie. Pour parler des conquêtes économiques d'Alexandre le Grand, nous avons invité Pierre Briand, professeur émérite au Collège de France, ancien titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, auteur entre autres de cet ouvrage « Alexandre, exégèse des lieux communs » paru chez Folio. Également avec nous Francis Johannes, professeur émérite d'histoire ancienne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de « La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban » publié chez Belin dans la collection Mondes anciens. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Francis Johannes et Pierre Briand.
Bonjour.
Et d'abord commençons par une lecture dans son livre « Les hôtes de passage ». André Malraux, aux côtés de son ami historien Georges Salles, raconte sa rencontre avec une médium à qui il a remis une étoffe et une photo. Elle regarde le feu mollement et fixement, pose la photo sur la table basse et les mains sur la photo, et parcourt des ongles de la main droite. Dans la gauche fermée, elle froisse les lanières. C'est très loin dans l'espace, au moins l'Orient, et c'est un temps très ancien. Il y a un champ de bataille la nuit, on s'est battu, un roi qui cherche parmi les morts, derrière les porteurs de lanternes. Il y a toujours un grand bouclier. Il y a un fleuve comme le Nil, un pont de bateau, un autre roi. Ce sont des femmes qui versent le vin. Il y a des troupeaux de moutons, encore. L'homme que je vois est un chef des Blancs. Scipion ? Rasé, ses cheveux clairs mangent son front. Quand il descend de cheval, il marche très vite. Une odeur de fleurs très sirupeuse, comme à Tahiti. L'homme s'en va vers le désert. Pourtant, c'est lui qui a gagné la bataille. Il y a beaucoup de combats contre des villes fortes, sur des petits monts, devant des montagnes. Il y a aussi des montagnes droites au loin, des plaines couvertes d'herbes, de lavande et des arbres, comme des peupliers. Le vent vient de loin. « Distinguez-vous le visage de l'homme ?» demande Georges Salles. « Maintenant, oui. Comment sont ses yeux ?»« Tiens, tiens, un bleu, un noir. Les yeux d'Alexandre de Macédoine. » Il y a beaucoup de légendes qui entourent Alexandre le Grand, Pierre Briand. Une chose est sûre, il est né en 356 avant Jésus-Christ à Pella, en Macédoine. Comment ce royaume de Macédoine est-il considéré par les cités grecques, Pierre Briand ?
Considéré par les cités grecques, en général, d'une manière... Si on suit le texte des orateurs d'Athéniens, c'est une sorte de mépris assez lointain pour le royaume de Macédoine, mais... ce qui est plus important, c'est de considérer la transformation du champ historique depuis une trentaine d'années en particulier. Ce qu'on connaissait, c'est uniquement à travers les auteurs grecs. Désormais, grâce à l'archéologie, grâce à l'épigraphie, là, on connaît, comme dit le meilleur connaisseur de la Macédoine de cette époque-là, Miltiades Hatzopoulos, on sait maintenant ce que sont les Macédoniens de l'époque d'Alexandre, ceux qui vont se lancer à l'assaut de l'Empire perse.
Que sait-on, de ces Macédoniens?
C'est d'abord un royaume qui s'est étendu très très vite sous Philippe II vers l'ouest, vers le nord et vers l'est jusqu'au détroit des Dardanelles et qui a inclus à un très grand nombre d'États à l'intérieur de ce royaume, mais qui est un royaume extrêmement bien organisé, très bien administré, avec une administration très puissante, et qui est devenu extrêmement riche, extrêmement puissant, grâce en particulier à la découverte du mine d'or, du mont Pangée, qui chaque année donnait à la Macédoine un revenu de 1000 talents, 25 tonnes d'argent environ par an, et qui ont assis les capacités à la fois militaires, administratives et politiques de Philippe II, vis-à-vis de tous ses voisins du Nord, ceux qu'on appelle les barbares du Nord, les cités grecques, ou également l'Empire perse, puisque Philippe II a lancé la première armée en Asie mineure, avant Alexandre.
Oui, c'est ça, avant Alexandre le Grand, Philippe II est déjà un conquérant et il a recours à la force militaire, mais aussi à l'arme économique, Pierre Briand.
L'arme économique, c'est essentiellement les finances qui lui permettent des finances et qui sont extrêmement bien administrées. L'agriculture se développe également à ce moment-là. Et le commerce, grâce au conseil du conseiller grec, proche d'ailleurs du cercle d'Aristote, qui ont imaginé des procédés qui permettent à Philippe II, chaque année, de gagner de l'argent et d'en dépenser beaucoup, au demeurant d'ailleurs. Parce qu'à la mort de Philippe II, le royaume de Macédoine doit de l'argent. Et quand Alexandre arrive au pouvoir, il a, le chiffre n'est pas connu, peut-être 500, 700 talents de dette qui ont été causés par les dépenses militaires, en particulier politiques, de Philippe II.
Philippe II de Macédoine qui aurait eu cette formule « Aucune ville ne résiste à un mulet chargé d'or ». Comment expliquer qu'il ait ainsi réussi à asseoir son autorité sur une bonne partie de la Grèce, Pierre Briand ?
L'une des raisons fondamentales, c'est que la Grèce est divisée entre de nombreuses cités, dont chacune ou tout entière s'oppose de principe à la Macédoine, mais chacune en particulier a de bonnes raisons de pactiser avec la Macédoine ou de ne pas s'allier avec ses voisines. Donc Athènes va se retrouver presque seule face à la Macédoine et va donc être vaincue en bataille rangée. C'est une première bataille rangée ou la bataille du Chéronée où Alexandre apparaît en tant que combattant.
Et déjà, Philippe II a l'intention d'attaquer l'Empire perse, il va le faire, mais sans succès, Pierre Briand ?
Sans succès, si on comptait à l'ensemble de l'Empire perse des Balkans à l'Indus. Mais il a réussi à faire débarquer une armée qui a remporté un ensemble de succès dans ce qu'on peut considérer que la partie nord-ouest de la Turquie actuelle. Et l'armée s'est implantée là, et cette armée était toujours là lorsqu'Alexandre va débarquer. Donc Alexandre a des points d'attache, des points de débarquement possibles. Donc c'est important. Quant à savoir quelles étaient les ambitions de Philippe II vis-à-vis de l'Empire perse, on n'en sait rien du tout. Peut-être certainement débarquer à un moment donné et probablement s'emparer de la partie occidentale de l'Empire perse et de l'Asie mineure.
Comment Philippe II meurt-il, Pierre Briand ?
Comment
Philippe II meurt-il ? C'est en 336 avant notre ère.
Il meurt assassiné dans son palais ou dans le théâtre d'Aigai. Et parce que la puissance de Philippe II se manifeste également à travers les constructions qu'il a érigées dans les capitales Pella et dans les grandes tombes d'Aigai qui était la nécropole royale. Il est mort assassiné et c'est du jour au lendemain, donc Alexandre, très jeune à ce moment-là, va monter sur le trône, non sans difficulté, car comme d'habitude dans les successions dynastiques en Macédoine, il doit éliminer pas mal de concurrents réels ou potentiels.
Et c'est cela, il monte sur le trône à l'âge de 20 ans et il fait preuve, dès les premières années de son règne, d'un talent militaire exceptionnel pour s'imposer et pour étouffer des révoltes dans les cités grecques.
D'abord, il fait preuve d'un talent politique certain, en s'imposant politiquement, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que beaucoup de concurrents possibles étaient là. Et d'autre part, tout de suite, il va asseoir son pouvoir face aux cités grecques et face aussi au peuple du nord de la péninsule, vers la Thrace, des Celtes qui sont là également, et sur lesquels il va devoir mener de lourdes batailles. Il lui faut absolument asseoir son pouvoir en Macédoine avant de commencer ce qui reste son grand projet, les conquêtes de l'Empire perse.
Dans le film de l'Américain Robert Rosen de 1956, Alexandre le Grand est incarné par Richard Burton. Mmh. Le jeune Alexandre veut faire la guerre à la Perse. Le roi Darius de Perse lui écrit alors une lettre pour l'en dissuader.
Le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi, Darius le Perse, le roi des rois, roi des pays où l'on parle toutes les langues, a fait rassembler dans les plaines de Babylone une armée telle que le monde n'en a jamais vue afin de lutter contre toi, Alexandre. Nous te prions donc d'obéir, retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère Olympias. Car tu n'es qu'un enfant impudent et sans la moindre vergogne, qui, dans sa folie et son ignorance, est venu en Asie avec sa bande de vils pillards et de malfaiteurs. Je t'envoie un fouet, une balle et un sac d'or. Le fouet pour te dresser, la balle pour te permettre de jouer avec les enfants de ton âge et laisser les hommes s'occuper de leurs affaires. Le sac d'or pour tes dépenses, car on m'a dit que tu étais pauvre. Sache que j'ai plus d'or que l'or qui poudroie dans les rayons du soleil. Tu n'as donc aucun besoin de te rendre en Asie pour le voler.
Voilà un extrait d'Alexandre le Grand de Robert Rossen. Si, marchant dans les pas de son père, Alexandre veut faire la guerre à la Perse, c'est pour s'accaparer ses richesses, Pierre Briand ?
C'est pour ça que...
S'accaparer les richesses, l'or de la Perse ?
Non, c'est une simplification outrancière.
Ah, alors expliquez-nous.
Non, d'abord, la première chose qu'on doit dire, c'est que nous n'avons aucun texte qui nous permette de dire ce qu'étaient les ambitions d'Alexandre en 334. Mais... disons que on peut supposer néanmoins que l'ambition était grande de conquérir l'ensemble de l'Empire perse. Conquérir l'ensemble de l'Empire perse, c'était les relations entre les Grecs et les Perses sont anciennes, c'est pas une nouveauté. Depuis le milieu du VIe siècle, les Grecs et les Perses sont en contact l'un avec l'autre en Asie Mineure et y compris dans les Balkans, puisque les armées perses sont venues à Athènes et dans les Balkans.
Et puis il y a eu des guerres, les guerres médiques au Ve siècle avant Jésus-Christ entre les Perses et les Grecs.
Donc il y a un lourd passif. Et d'autre façon, les Macédoniens étaient déjà au port de l'Empire perse, puisque les possessions extérieures orientales étaient limitrophes de l'Empire perse. Et les relations étaient très intimes entre les deux, puisque sous le règne de Philippe II, un satrape du nord-ouest de la Turquie actuelle, et s'est exilé en Macédoine avec toute sa famille, toute sa maison. Et donc les relations étaient très très étroites, et débarquer en Asie mineure comme son père était une chose assez évidente. Et évidemment, à l'évidence, les ambitions d'Alexandre n'étaient pas réduites à l'Asie mineure. Il voulait en conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen, l'ensemble du bassin oriental et méditerranéen, et aller vers l'intérieur. Tout laisse à penser que ce plan était mûrement réfléchi, était assez nettement dessiné dans sa tête lorsqu'il a débarqué en 334 en Asie mineure.
Mais que représente l'Empire perse de Darius III sur les plans géographiques et économiques, Pierre Briand ?
Alors, l'Empire perse que les historiens d'Alexandre oublient trop souvent de présenter est le plus grand état de l'Antiquité à cette époque-là. C'est un empire qui s'est créé au milieu du VIe siècle et qui s'étend, alors c'est inouï, depuis les rives de l'Indus jusqu'aux Balkans, disons jusqu'à la Méditerranée, et depuis les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, plus l'Afghanistan, jusqu'au Golfe Persique, jusqu'à la mer Rouge, puisque l'empire s'étend, comprend ainsi aussi la vallée du Nil et ses abords immédiats. Donc c'est un empire immense, multiculturel, multiethnique, où on parle une vingtaine ou une trentaine de langues, je ne sais pas, et où l'administration elle-même est plurilingue. Cet empire est divisé en grandes administrations provinciales, les satrapies, et est couverte par une armée, et il est administré d'une manière extrêmement précise, rigoureuse, et on le sait désormais grâce la publication des archives de Persépolis qui ont été trouvées au début des années 1930, mais qui commencent vraiment à être publiées d'une manière exhaustive à Chicago. Et donc on sait très bien maintenant comment fonctionne l'Empire perse de manière extrêmement précise, la fiscalité, l'administration, la levée de travailleurs dans toutes les régions de l'Empire qui viennent converger vers le centre, vers les résidences, qui sont envoyés d'un endroit à l'autre, d'un empire minutieusement organisé, bien sûr, sur une puissance financière considérable et sur une puissance militaire non moins importante. Donc c'est vraiment un défi que se lance Alexandre d'espérer vaincre l'Empire achéménide.
Et alors justement, comment réussit-il à soumettre les Perses, Pierre Briand ? Son père déjà avait réformé l'armée macédonienne. C'est grâce à une armée puissante qu'il réussit ainsi sa campagne militaire ?
Je veux dire, la réponse certainement oui, mais il y a d'autres éléments. Disons que tout s'est joué dans les premières semaines de la guerre. Lorsqu'Alexandre débarque en Asie mineure, il a environ 40 000 soldats. En face, les satrapes d'Asie mineure ont rassemblé leurs troupes à peu près d'égale force numérique. Et la bataille se livre sur les bords d'un petit fleuve d'Asie mineure occidentale, l'Eugranique. La bataille est victorieuse, Et pour lui, ça aurait pu être complètement différent. Évidemment, aucune bataille rangée dans l'Antiquité n'est gagnée d'avance. Et il s'en a fallu de peu qu'Alexandre lui-même soit blessé grièvement. Mais cette bataille est décisive dans la mesure, elle va permettre à Alexandre, alors on n'a pas encore parlé des ressources financières d'Alexandre, mais on va en parler, puisqu'Alexandre, à ce moment-là, n'a pas beaucoup d'argent. Il a, on dira qu'il a, il peut payer ses soldats pendant un mois et les faire vivre pendant un mois.
Malgré les mines d'or de Macédoine?
Mais les mines d'or, ça va pas suffire. Parce qu'il faut, faire vivre 40 000 personnes, payer 40 000 soldats, faire vivre 40 000 soldats plus la flotte. Donc les dépenses sont absolument gigantesques. Et donc la condition nécessaire, c'est qu'il remporte sa victoire, ce qui va lui ouvrir les portes des trésors de satrapes, trésors de Scylléon, trésors de Sardes, et toutes les grandes satrapies d'Asie mineure, ce qui va lui permettre de lever le tribut que levait Darius, donc de reprendre son profit le système fiscal achéménide, de taxer des cités grecques, de taxer des temples, et donc d'avoir accès désormais à une ressource financière inépuisable et donc de plus en plus grande au fur et à mesure des victoires, puisque après la victoire d'Issos en 333, il met la main sur d'autres trésors, etc., etc. Donc la guerre nourrit la guerre.
Effectivement, et la conquête nourrit la conquête, mais ce qu'il faut peut-être dire en quelques mots, Pierre Briand, oui. C'est que en quelques années, Alexandre le Grand réussit à asseoir sa domination sur un territoire absolument gigantesque. Il va arriver en Égypte, où il va fonder Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ, et puis il va arriver à la capitale perse, Babylone, qui est située à 85 km au sud de la capitale actuelle de l'Irak. Bagdad, comment expliquer ces victoires? Est-ce qu'il faut y voir aussi une faiblesse de l'Empire perse à cette époque?
Bon, la thèse traditionnelle, c'était que l'Empire perse était en décadence, mais cette thèse de la décadence est un lieu commun parmi tant d'autres, qui ont circulé depuis l'Antiquité, à travers toutes les géographies d'Alexandre. Et cette décadence qui était considéré comme faisant partie intégrante de ce qu'on appelle le despotisme asiatique, donc tous ces empires despotiques. Et d'ailleurs, l'empire perse de Darius III était souvent comparé à l'époque moderne avec l'empire ottoman, supposé être décadent lui aussi. Et un historien allemand du début du XIXe a voyé dans la conquête d'Alexandre le prélude, la conquête européenne de la Turquie et au démembrement de l'Empire ottoman. Donc cette idée de la décadence est une fausse idée. Francis Joannès pourra en parler plus particulièrement à propos de la Babylonie. Non, ce qu'il faut voir là-dedans, derrière les conquêtes militaires, c'est aussi l'intelligence politique d'Alexandre. Il a compris comment fonctionnait l'Empire achéménide. L'Empire achéménide fonctionnait comment? Le grand roi n'a pas pu tenir tous ses territoires uniquement par la force armée. Il lui fallait l'accord des élites locales. Et donc le grand perse, avait des accords et les élites locales se sont ralliées sous condition au grand roi. Et Alexandre a très bien compris le système. Dès d'en arriver en Asie mineure, il a fait la même chose. En arrivant à Sardes, par exemple, il a conclu un accord avec le maître de Sardes, le perse Mitrénès, qui s'est rendu volontairement à Alexandre, en échange de quoi il a obtenu une place d'honneur dans l'entourage d'Alexandre. Et de même en Égypte et en Babylonie, pareil, on pourra en parler avec Francis Joannès, et partout pareil. Donc il y a cette capacité d'Alexandre à comprendre les ressorts politiques du fonctionnement politique de l'Empire achéménide et à s'emparer très vite des techniques de gouvernement des grands rois et apparaître de cette façon-là comme le successeur politique des grands rois.
Cette thèse de la décadence de l'Empire perse est reprise par Jean Racine dans la pièce qu'il consacre à Alexandre le Grand. Dans cette pièce, le roi indien Porus s'adresse au général macédonien Héphestion. Écoutez.
Avant que sa fureur ravageât tout le monde, l'Inde se reposait dans une paix profonde. Pourquoi nous attaquer ? Par quelle barbarie a-t-on de votre maître excité la furie ? Faut-il que tant d'états, de déserts, de rivières soient entre nous et lui d'impuissantes barrières ? Et ne saurait-on vivre au bout de l'univers sans connaître son nom et le poids de ses fers ? Quelle étrange valeur qui, ne cherchant qu'à nuire, embrase tout sitôt qu'elle commence à luire, qui n'a que son orgueil pour règle et pour raison, qui veut que l'univers ne soit qu'une prison et que maître absolu de tous tant que nous sommes, ses esclaves en nombre égale tous les hommes. Dans son avis d'orgueil, je sais qu'il nous dévore. De tant de souverains, nous seuls régnons encore. Mais que dis-je nous seuls ? Il ne reste que moi, où l'on découvre encore les vestiges d'un roi. Mais c'est pour mon courage une illustre matière. Je vois d'un œil content trembler la terre entière, afin que par moi seul les mortels secourus, s'ils sont libres, le soient de la main de Porus. Et qu'on dise partout dans une paix profonde. Alexandre vainqueur eut dompté tout le monde, mais un roi l'attendait au bout de l'univers, par qui le monde entier a vu briser ses fers.
Votre projet, du moins, nous marque un grand courage. Mais, seigneur, c'est bien tard s'opposer à l'orage. Je ne vous retiens point à marcher contre mon maître. Je voudrais seulement qu'on vous l'eût fait connaître et que la renommée eût voulu, par pitié, de ses exploits, au moins vous compter la moitié. Vous verriez...
Que verrais-je ? Et que pourrais-je apprendre qui m'abaisse si fort au-dessous d'Alexandre ? Serait-ce sans effort les Persans subjugués ? Et vos bras tant de fois de meurtre fatigués ? Quelle gloire, en effet, d'accabler la faiblesse d'un roi déjà vaincu par sa propre mollesse, d'un peuple sans vigueur et presque inanimé qui gémissait sous l'or dont il était armé et qui, tombant en foule au lieu de se défendre, n'opposait que des morts au grand cœur d'Alexandre. Les autres, éblouis de ses moindres exploits, sont venus à genoux lui demander des lois. Et leur crainte, écoutant je ne sais quels oracles, ils n'ont pas cru qu'un dieu pût trouver des obstacles. Mais nous, qui d'un autre œil jugeons des conquérants, nous savons que les dieux ne sont pas des tyrans.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho ? Nous parlons de l'empire économique d'Alexandre le Grand avec les historiens Francis Johannes et Pierre Briand. C'était une adaptation d'Alexandre le Grand de Racine par Blandine Masson et Louise Loubrieux pour France Culture avec les comédiens Thierry Ancis et Sébastien Poudrou. L'ambition mène Alexandre en Inde, ou plutôt dans la vallée de l'Indus, dans le Pakistan actuel, et il va vaincre le roi Porus, Pierre Briand.
Oui, il va vaincre, il va remporter une victoire sur Porus, la fameuse bataille contre Porus, qui a été représentée 30 fois au cinéma, y compris par Leverstone, mais également dans les films indiens. Cette victoire est une victoire réelle, mais Alexandre ne va pas aller plus loin. Au fond, Alexandre, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'on suit son trajet, il suit les frontières de l'Empire perse. C'est-à-dire qu'il reconstitue à son profil l'Empire perse, il ne va jamais au-delà, il laisse d'ailleurs quelques pays en dehors. Donc il revient, une fois arrivé sur l'Indus, il va suivre son plan qui était de descendre l'Indus et de revenir en Perse via les côtes du Golfe Persique et son amiral Néarque remontant le Golfe Persique jusqu'à Suse. Donc ainsi, la boucle est bouclée, si je puis dire, l'Empire perse dans son entier est tombé dans le giron d'Alexandre.
Oui, et puis vous en parliez, hein, la conquête nourrit la conquête, les trésors perses alimentent la machine de guerre, Pierre Briand, en particulier la fiscalité.
D'abord, oui, la fiscalité, c'est-à-dire qu'Alexandre reprend à son profit toute la fiscalité achéménide, il n'invente pas grand-chose. Il reprend, les textes disent eux-mêmes, dès la première victoire du Granic en 1334, il nomme un nouveau satrape macédonien, cette fois-ci, dans la satrapie de l'Askélion.
Donc je rappelle que la satrapie, c'est cette division administrative de la Perse antique.
Exactement, et il ordonne aux habitants de payer le tribut qu'il payait auparavant à Darius. Donc ça c'est une chose. Et puis il y a également donc ça c'est ce qui fait vivre aussi. Mais lorsqu'il arrive dans les grandes résidences, il y a pas de capitale dans l'Empire perse.
Ah.
Et certainement pas Babylone. Mais disons qu'il y a quatre grandes résidences royales. La royauté, la course déplaçant de capitale en capitale tout au long de l'année, il y a pas de capitale. Donc il va de résidence en résidence. Donc Babylone, Suse, Persépolis, Pasargade, plus Ecbatane. Et dans ces trésors, il trouve, alors d'après les décomptes des auteurs anciens, conservés comme tels pour le moment, ils auraient trouvé 180 000, au total, 180 000 talents d'or. Talents d'or et d'argent. Ce qui veut dire, en mesure actuelle, ça équivaut, si tout était en argent, à 4180 tonnes d'argent, ou si tu avais que de l'or, à 468 tonnes. Donc c'est un une masse d'argent. D'ailleurs, très souvent, depuis la scénographie, depuis le Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, on a fait nombreuses comparaisons entre cette capture des trésors perses, l'arrivée de l'argent d'Amérique en Espagne, les captures d'autres trésors, et on s'est posé la question, c'est pas d'hier, hein. Vous posez une question qui est très bonne, mais qui a déjà été posée, on n'avait pas forcément répondu. Quelles ont été les conséquences de cette mise au jour des trésors perses qui étaient... Et donc, ça a été seulement un changement. Bon, on va peut-être en parler tout à l'heure des conséquences. Mais, si vous voulez, du point de vue de ses ressources financières, Alexandre, à partir de... Dès le début de sa conquête, en 1334, n'a plus aucun problème d'argent.
Oui, on va parler...
Le problème, c'était plus de la dépense, mais les ressources étaient illimitées.
On va parler un peu plus tard, hein, avec Francis Joannès, de la question de la monétarisation. Mais encore un mot sur la réutilisation par Alexandre le Grand de système de l'Empire perse, réutilisation du système fiscal, réutilisation également du système de comptabilité, Pierre Briand, et de la logistique perse.
Alors... sur la comptabilité, les textes que nous avons ne permettent pas d'en parler très... Mais il y avait une comptabilité très précise. Je vous donne seulement un seul exemple. Lorsque les armées font du butin, les textes anciens en général disent, ils parlent du butin, de soldats qui pillent, qui tuent, qui violent, etc. Mais en réalité, enfin, c'est pas faux, mais en réalité, il y avait un décompte très précis qui était fait du butin. Je prends un seul exemple, un texte d'un auteur très tardif, et qui rapporte une partie du butin qui a été fait après la bataille d'Issos en novembre 333, dans le camp de Darius. Et dans le contexte du récit, il ne parle que du personnel des cuisines. Alors, écoutez bien. Concubine royale, 329. Tresseur de couronne, 46. Cuisinier, 277. Marmiton, 29. Cuisinier spécialisé dans les mets au laitage, 13. Préparateur de boissons, 7. Filtreur de vin, 70. Fabricant de parfums, 14. Total, 796.
C'est précis.
Et c'était pour tous, c'est pareil. Pour l'or, pour l'argent. Donc il y avait des. Mais on n'a pas accès à la comptabilité d'Alexandre. Ça, on l'a pas. Mais lorsqu'on regarde la comptabilité des Perses achéménides à travers les tablettes de Persepolis, c'était d'une précision extraordinaire. Et il y avait aussi des inventaires à Babylone. Donc tout ceci, lorsque des auteurs modernes disent qu'Alexandre ne s'intéressait pas aux finances, n'y connaissait rien, ne s'intéressait pas, c'est faux. Alexandre avait justement des gens près de lui qui s'en occupaient d'une manière très précise, des comptables. Il y avait une culture également de la comptabilité en Macédoine, plus la culture achéménide qui fait que... Les comptes étaient tenus, et bien tenus, même si Alexandre était un grand dépensier.
La comptabilité, c'est important d'en parler. Il faut aussi dire un mot de la logistique qui a été mise en place par les achéménides et sur laquelle s'appuie aussi l'armée d'Alexandre pour progresser, pour évoluer.
Voilà, Alexandre n'aurait jamais gagné, n'aurait jamais remporté la victoire s'il n'avait pas utilisé les ressources de l'Empire achéménide. Or, on s'est beaucoup demandé comment l'armée a peut-être pu se ravitailler tout au long des années, tout au long des conquêtes. La raison est assez simple. Il y avait à l'époque achéménide, donc lorsqu'Alexandre arrive au pouvoir, en Asie mineure et plus tard, il y avait tout au long des grandes routes de l'Empire qui étaient minutieusement organisées, on le sait, à travers la tablette de Persépolis en particulier. Et donc il y avait à étapes régulières des stations avec des magasins, différenciés, des magasins d'orge, de vin, magasins pour autre chose. Et à chaque fois qu'une caravane arrivait avec un ordre écrit, évidemment, qui disait combien telle personne doit recevoir telle ration. Il arrivait à la station, il produisait ça devant le magasinier transmettait les produits, il faisait le compte après, et à la fin de l'année, il envoyait le compte à Persépolis. Et les comptes généraux de tous les magasins, des milliers de magasins, étaient faits à Persépolis chaque année. Donc il y avait des ressources tous les ans, et on sait par un texte grec qu'à l'époque d'Alexandre, cette réglementation existait toujours. Chaque satrape avait l'obligation de tenir le niveau des magasins à jour, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de rupture de l'alimentation.
Gonna wreck it in another nation.
chanteuse athénienne Stella avec le britannique Redinho. Sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, Alexandre le Grand, pillé pour mieux régner, c'est notre sujet aujourd'hui. Les historiens Francis Joannès et Pierre Briand sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Jeanne Cherquefos et Cassandre Puel avec l'aide de Denis Forget et mise en onde par Marie-Claire Oumapetti.
Songez aux esprits qui ont conçu tout cela. Avec de tels architectes et de tels ingénieurs, nous pourrions bâtir les cités de nos rêves.
Aristote les traitait de barbares. Mais ils n'avaient pas vu Babylone.
Il y a assez d'or ici pour payer l'armée macédonienne pendant un siècle.
La Macédoine serait bientôt corrompue, Cassandre. Les richesses attirent les corbeaux.
Tu ne parles pas ainsi des hommes qui se sont battus?
Non, nous les paierons bien, Antigone. Mais pas pour en faire des mercenaires.
On croirait entendre Philippe. Philippe n'avait pas vu Babylone.
Oh, tu dis vrai, Fastion.
Voilà, extrait d'Alexandre, le film d'Oliver Stone avec Colin Farrell, Angelina Jolie et Jared Leto. La conquête de Babylone et des autres grandes cités perses va permettre à Alexandre de mettre la main sur de colossales réserves d'or et d'argent, on l'a dit. Et c'est ce qui va permettre une monétarisation de l'Empire perse, Francis Joannès.
Alors, déjà, il faut préciser que Babylone tombe entre les mains d'Alexandre sans combat. Elle lui est livrée par le gouverneur perse de la ville. Ça lui permet de conserver son poste. Et effectivement, Alexandre découvre à ce moment-là un type de ville qu'il n'avait pas rencontré jusqu'à maintenant. Là, on est en Mésopotamie. Babylone existe depuis au moins 2000 avant Jésus-Christ comme grande capitale. Et même si elle n'a plus d'indépendance politique depuis le 6e siècle, elle est quand même une des plus grandes villes de la région. Et effectivement, c'est là tout autour, ce qu'on appelle la Babylonie, l'une des régions les plus prospères de l'Empire, qui fonctionne selon un système économique bien rodé depuis longtemps, et qui a bénéficié depuis la conquête perse de 2 siècles de paix et de tranquillité qui lui ont permis de développer en particulier son agriculture, son élevage, et d'être vraiment l'une des grandes provinces économiques de l'Empire perse. Avec cette particularité du point de vue des échanges, que les prix ou les estimations, les valeurs se déterminent en argent, et les transactions donc se passent en argent, mais en métal pesé. C'est-à-dire que quand on exprime un prix, et on a des listes de prix et de valeurs des différents produits, c'est exprimé en mines et en sicles, qui sont des poids d'argent. Et toute cette zone, disons, à l'est de l'Euphrate, fonctionne avec ce système de l'argent pesé, par opposition à l'ouest du Proche-Orient et puis évidemment au monde grec, qui fonctionne avec du numéraire, c'est-à-dire de la monnaie véritable et de l'argent donc qui est compté. Et là, l'arrivée d'Alexandre et la reprise, l'unification donc de l'Empire perse dans son propre empire va avoir pour conséquence à long terme répandre l'usage du numéraire et de la monnaie frappée dans toute la partie orientale de l'Empire.
C'est-à-dire que là où l'argent était thésaurisé, désormais il va circuler, Francis Joannès, on peut le dire comme ça?
Il circulait déjà, mais il circulait sous forme de petits lingots ou de bijoux ou de morceaux d'argent que l'on découpait pour obtenir le prix demandé. Et évidemment, les grands trésors d'argent, parce que là, dans les extraits, on entendait parler de l'or à foison, enfin, ce, Non, c'est surtout de l'argent, effectivement, qui a été utilisé dans les échanges. Ces masses d'argent n'ont pas été investies d'un seul coup dans l'économie de l'Empire. Il y a effectivement un contrôle administratif de toutes ces réserves. Et mis à part le cas célèbre de Harpal, donc qui avait été laissé par Alexandre pour s'occuper d'une partie du trésor et qui s'enfuit avec, le reste est resté sous le contrôle de l'administration impériale.
Donc ce serait une erreur de considérer Alexandre comme celui qui a permis la mise en circulation des trésors perses, comme celui qui a fondé la première économie monétaire en Perse, Francis Joannès ?
Non, elle existait déjà. Enfin, et les Perses eux-mêmes avaient un système monétaire avec les dariques ou les sicles perses, fondés sur de l'or et de l'argent, mais une utilisation très restreinte de la monnaie. Enfin, pour les besoins. Particulièrement pour payer une partie de l'armée. Ça ne fonctionnait pas comme ça dans l'économie réelle. Et par contre, donc, si on prend le cas des très nombreux contrats qu'on a retrouvés dans les archives cunéiformes mésopotamiennes, eh bien, on voit que quand on achetait un esclave, une terre, une maison, on la payait en argent. Mais avec cet argent donc qui était exprimé sous forme de poids. Et après Alexandre, mais c'est un phénomène qui a mis plusieurs dizaines d'années à s'imposer, on utilise toujours cette référence de l'argent pesé, mais on nous précise que ce poids est atteint avec des statères d'Alexandre. C'est-à-dire que là, on utilise la monnaie, mais en la pesant. Et une des raisons pour lesquelles s'est fait ce passage, ou cette adoption qui a été quand même assez rapide, c'est le fait que cette monnaie frappée par Alexandre en particulier est d'une pureté extrême. Elle est pure à 97%, alors que l'argent raffiné auparavant, lui, était plutôt de l'ordre de 87% ou péniblement jusqu'à 90% de pureté.
Et donc la conquête de la Perse donne un nouvel élan au système monétaire, conquête de la Perse par Alexandre le Grand, un nouvel élan également au commerce, Francis Joannès, puisqu'on l'a dit, c'est un empire qui s'étend des Balkans au Pakistan actuel. Ça permet aux marchandises de circuler plus facilement.
Alors, on peut parler déjà d'un espace commercial achéménide, effectivement, qui unissait l'Inde et qui dispose de toute une série de produits exotiques, disons, intéressants pour les régions de l'Ouest.
Donc avant l'arrivée d'Alexandre.
Avant l'arrivée d'Alexandre, jusqu'à la Méditerranée. Donc il y avait déjà une circulation commerciale. Ce qui semble avoir beaucoup intéressé Alexandre, justement, c'est l'aspect maritime ou les débouchés maritimes de cet empire, puisque après avoir suivi la côte de l'océan Indien pour revenir à Babylone, quand il était dans la ville et avant de mourir brutalement, il préparait une expédition vers ce qu'on appelait l'Arabie, alors qui peut être une partie de l'Arabie actuelle, mais en gros, c'était surtout aller voir du côté du Golfe Persique, justement, quelles étaient les ressources et les possibilités de commerce, et éventuellement de faire la jonction avec l'Égypte, et à ce moment-là, de pouvoir ouvrir, disons, de nouvelles routes commerciales maritimes.
Ce que l'on comprend, Pierre Briand, c'est que l'arrivée d'Alexandre a dynamisé le commerce dans cet empire perse, a permis de développer davantage le système monétaire. Pour autant, est-ce qu'on peut parler d'un essor économique très important lié à cette conquête ? Je crois qu'il y a toute une historiographie qui a voulu bien le croire, en tout cas.
Oui, alors effectivement, merci de parler d'historiographie, parce que pour comprendre la situation actuelle, je crois qu'il faut remonter un petit peu aux origines de cette thèse de la monétarisation et de l'expansion commerciale. Au fond, citons d'abord Drogsen, qu'on est considéré comme le créateur de l'époque de l'historiographie hellénistique. Drogsen est un jeune historien prussien qui, en 1833, à l'âge de 25 ans, publie ce qui peut être considéré comme la première biographie critique d'Alexandre le Grand. Et il écrit ceci. Quand la nouvelle puissance royale qui régna maintenant sur l'Asie donna la volée, c'est magnifiquement traduit aussi, donna la volée à ses richesses jusque-là ensevelies, lorsqu'elle les laissa déborder de son sein, comme le cœur projette le sang, il est facile de comprendre que le travail et le commerce les répandirent par une circulation de plus en plus rapide à travers les membres longtemps ligaturés de l'Empire. On voit comment, par ce moyen, la vie économique des peuples dans la domination perse avait sucé les forces comme un vampire, dû se relever et se prospérer. Donc l'opposition est très claire entre une époque qu'on appellerait un sous-développement total, une décadence totale à l'époque perse, où il n'y aurait aucun commerce, aucune circulation, et cette métaphore de la circulation du sang associée à la circulation monétaire est très ancienne. C'était un acte de foi des économistes au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Et pourquoi cette vision? Parce que c'est un moment au XVIIe et XVIIIe siècle pendant lequel on a envie de voir Alexandre le Grand comme un conquérant qui apporte le développement économique, comme un colon.
Non, pas comme un colon. Pas comme un colon, mais disons qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, une réflexion sur le commerce, sur l'économie, et on considère que, effectivement, la métaphore de la circulation, selon laquelle la monnaie irrigue le corps de la nation, comme le sang irrigue l'organisme, a été reprise par tout le monde. Je cite seulement une parole de Diderot qui s'adresse à Frédéric de Prusse, qui lui dit ceci. « Que ces innombrables métaux enfouis dans tes coffres, en rentrant dans la circulation, rendent la vie au corps politique, que tes richesses personnelles qu'un revers peut dissiper n'aient désormais pour base que la richesse nationale qui, elle, ne tarira pas. » Donc, cette métaphore a été très, 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 très répandue. Et par ailleurs, au XVIIIe siècle, et à la fois à travers Montesquieu, mais bien d'autres, Voltaire, mais des philosophes et des historiens écossais et anglais en particulier, s'est mise en place cette idée de la création du grand commerce maritime à l'époque d'Alexandre le Grand. Je cite Montesquieu dans l'Esprit des lois, 1748, deuxième édition, 1757. « Quatre événements arrivés sur Alexandre firent dans le commerce une grande révolution. La prise de Tyr, la cité phénicienne, la conquête de l'Égypte, celle des Indes, et la découverte de la mer qui est au milieu de ce pays, c'est le golfe Persique. Ce conquérant avait fondé Alexandrie dans la vue de s'assurer de l'Égypte. C'était une clé pour l'ouvrir, dans le lieu même où les rois, ses prédécesseurs, avaient une clé pour la fermer. Il ne songeait point à un commerce dans la découverte de la mer des Indes pour faire seul connaître la pensée. Donc, pour Montesquieu, qui reprend des expressions antérieures, peu importe, mais qui les codifie dans une image d'Alexandre, le bon conquérant, le conquérant qui ne fait pas de mal, qui au contraire entre en relation pacifique avec les populations conquises et qui apporte la prospérité grâce au développement du grand commerce. Et c'est l'origine même d'une théorie, d'une représentation d'Alexandre qui a eu une fortune formidable jusqu'à l'époque contemporaine.
Oui, Alexandre a longtemps été perçu comme un modèle colonial, Francis Johannes.
Oui, peut-être, mais enfin, le terme de colonial, je ne sais pas si c'est vraiment approprié. Disons que il y a un phénomène migratoire qui est important, c'est l'installation après la conquête d'Alexandre, effectivement, de populations grecques dans toutes les parties de l'Empire, jusqu'en Bactriane, hein, jusqu'en Afghanistan actuel. Et ce phénomène a eu des conséquences quand même très, très importantes du point de vue culturel, et puis aussi économique, parce que par exemple, alors après Alexandre, avec la fondation de l'un de ses successeurs de l'Empire Séleucide, donc Séleucos, qui reprend la plus grande partie orientale de l'Empire d'Alexandre, et bien dans la région qui est actuellement la vallée de la Diyala, qui est un affluent du Tigre, à l'endroit où s'est installé Bagdad précisément, il a mis en place alors une nouvelle ville qui s'appelle Séleucie du Tigre, qui sera une des plus importantes de la région. Et puis, il met en valeur toute la vallée avec des productions qui sont typiques du monde grec. Il fait introduire la vigne, peut-être l'olivier, également le blé. Donc, il y a des endroits dans l'Empire où on a recréé, disons, un système économique à la grecque. Mais cela dit, bon, pour la Mésopotamie, c'était quelque chose qui était relativement étranger. Donc, ça n'est pas la région par excellence où se sont implantées les populations grecques. Elles sont plutôt restées du côté de la Syrie actuelle du Levant, et ça a profondément changé les structures de production de ces régions.
Et aussi les structures terrestres, les structures en termes d'infrastructures, de routes, puisque cette immigration grecque en Orient a permis d'améliorer ce réseau urbain et les routiers de l'Empire, Francis Johannès ?
Pour le réseau routier, pas significativement. Disons que le réseau était en place depuis en fait l'époque de l'Empire néo-assyrien, donc le 8e siècle avant, qui en avait tracé les premières lignes. Et puis c'est surtout effectivement l'Empire perse qui avait développé ce réseau. Et il a été repris tel quel, avec les mêmes directions, disons, ou les mêmes principales voies de communication par Alexandre et puis par les Séleucides.
Pierre Briand.
Oui, alors je dois seulement ajouter un mot pour résumer un petit peu la discussion, je ne me permettrai pas. Mais on a souvent comparé Alexandre à Christophe Colomb. Donc un découvreur de terre qui ouvre, et il y a quelques années, s'est ouvert d'ailleurs à Mannheim en Allemagne, une exposition sur Alexandre qui était intitulée d'une manière incroyable Alexandre et l'ouverture du monde, comme si Alexandre avait ouvert le monde. Mmh. Non, ce qu'Alexandre a permis, c'est peut-être à l'Europe de s'emparer du Moyen-Orient, ce qui n'est pas étant la même chose. Et donc, en réalité, Alexandre n'est pas un Christophe Colomb, il n'a pas découvert les choses, le système routier a existé avant lui, le système monétaire a existé avant lui, la connaissance de l'Extrême-Orient était très bien entretenue dans les capitales achéménides. Donc Alexandre a surtout repris à son profit un système qui existait déjà, qui était parfaitement... Et il a introduit des ferments de nouveautés, effectivement. En particulier, il a introduit une population grecque et macédonienne qui a donné naissance à une extension du monde grec. Mais le Moyen-Orient n'est pas devenu grec. Il n'y a pas eu de phénomène d'hellénisation du Moyen-Orient. L'Égyptien continue à parler égyptien, les Babyloniens à parler babyloniens, et les autres à parler leur langue.
Il est d'autant plus surprenant de constater que la fameuse expédition de l'Inde, volontiers considérée comme le plus beau fait d'armes de l'Antiquité, s'est accomplie sous le signe du mensonge. Ce mensonge, vous le connaissez, car il traîne encore dans les manuels. Sur le témoignage unanime et concerté de tous ceux des compagnons d'Alexandre qui ont écrit leur mémoire, il est entendu que l'Inde n'avait été conquise avant lui par aucun homme. Strabon et Arien l'ont répété d'après eux, et tel est notre superstitieux respect pour nos auteurs classiques que cette assertion tendancieuse serait restée la vérité historique si la lecture des inscriptions de Darius Ier n'en avait démontré de nos jours la fausseté. Nous savons à présent que l'Inde, et par Inde entendez toujours le bassin de l'Indus, avait déjà été annexée à leur empire par les grands Achéménides. Et nous savons aussi qu'Alexandre, non plus que ses généraux, ne pouvait l'ignorer.
Voilà l'archéologue Alfred Fouché dans une archive de la radiodiffusion française de 1949. Alexandre avait été présenté comme le premier conquérant de l'Inde, ce qui était faux. Désormais, les historiens donnent plus d'importance à l'histoire de l'Empire perse et à la dynastie des Achéménides. Pierre Briand.
Écoutez...
Vous en êtes l'exemple.
j'allais dire, c'est un peu comme ça que je suis arrivé aux Achéménides, parce qu'on m'expliquait dans mon jeune temps que avec Alexandre tout a changé au Moyen-Orient, donc on arrive à une phase B, mais on m'expliquait pas ce que c'était la phase A. Donc comment expliquer que tout a changé si on m'explique pas ce qu'est la phase A. Donc je me suis commencé à travailler sur les Achéménides. Mais bien entendu, désormais, on s'en aperçoit pas beaucoup à lire la biographie sur Alexandre le Grand, même les ouvrages contemporains, car il y a encore une coupure entre deux mondes. Le monde de l'Antiquité classique, et Alexandre est rattaché via la langue des auteurs grecs et latins à l'Antiquité classique, et le monde du Proche-Orient. Et le monde du Proche-Orient qui a longtemps abandonné d'ailleurs Alexandre au classicisme. Donc il y avait un entre-deux qui était l'Empire achéménide, le plus grand empire d'Antiquité qui était laissé en jachère par les uns et par les autres. Il va donc réunir tout ce monde-là au sein d'une entreprise commune pour que l'Empire achéménide commença à exister d'une manière sur le plan historiographique. Et désormais, du moins, il faut être spécialiste d'Alexandre n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens de travailler pendant 20 ans, 30 ans sur les batailles d'Alexandre. Ça n'a aucun sens. Ça a peut-être du sens, mais historiquement, ça n'a pas grand sens. Pour comprendre le sens de l'époque d'Alexandre, il faut comprendre ce qu'était la Macédoine, ce qu'était l'Empire perse, ce qu'ont pu être les conséquences éventuelles à long terme, pas à court terme, des conquêtes d'Alexandre. Donc, être hospésié dans l'Empire Achéide, plus hospésié d'Empire d'Alexandre, c'est, me semble-t-il, la condition nécessaire pour faire avancer la recherche et la réflexion.
Alexandre le Grand, qui meurt en 323 avant notre ère, l'immense empire d'Alexandre le Grand ne lui survit pas. Il va être partagé entre ses généraux et dans cette période qui s'ouvre alors, Francis Johannes, après les guerres entre généraux qui se disputent cet empire. Là, on va voir des transformations de l'économie peut-être plus importantes qu'à l'époque d'Alexandre.
Je disais tout à l'heure que la Babylonie, par exemple, avait connu 2 siècles de paix sous les Achéménides. Et après le passage d'Alexandre, c'est au contraire une période de 20 ans ou 30 ans de guerre, dont la région de Babylone est d'ailleurs le théâtre, et où les gens souffrent directement de cette période de guerre et des rivalités entre les successeurs d'Alexandre, ce qui entraîne par exemple une hausse des prix phénoménale. On a la chance de posséder des textes cunéiformes qu'on appelle des journaux astronomiques, qui sont des relevés faits par les astronomes de Babylone toutes les nuits, de l'état du ciel, où ils faisaient des récapitulatifs mensuels et où ils ajoutaient les prix ou la valeur des principaux produits de cette époque. Et grâce à ces journaux astronomiques, on voit que pendant la période justement qui suit la mort d'Alexandre et les combats entre Diadoque, il y a une augmentation stratosphérique des prix qui est liée à ces difficultés.
Mais après cette période et de troubles, il va y avoir un fort développement économique sous la dynastie Séleucide.
C'est ça, c'est le cause premier, donc fonde ce qu'on appelle l'Empire Séleucide. Et à ce moment-là, en se ménageant l'appui des autorités locales et des pouvoirs locaux, il remet le pays en état et ouvre ainsi une nouvelle période justement de prospérité et qui est particulièrement visible et qui fait que, alors pour rebondir sur l'aspect historiographique, du côté des spécialistes de la Mésopotamie, on a eu tendance longtemps aussi à considérer que la conquête d'Alexandre était une fin en soi, enfin qu'il ne se passait plus rien en Mésopotamie après. Et depuis plusieurs années, on constate qu'il y a une vigueur, en particulier du point de vue culturel ou scientifique, mais aussi économique, de l'état de la région, que l'on retrouve dans les sources locales, et qui est une des conséquences justement de la conquête du passage d'Alexandre.
Et comment cette prospérité se traduit-elle concrètement, Francis
Johannes? Par le fait que les villes se développent, enfin les grandes villes comme Babylone ou bien comme Uruk dans le sud, avec de nouvelles constructions, et puis donc une activité culturelle en particulier, enfin qui ménage la transition, enfin il est la reprise de la tradition mésopotamienne jusque à ses plus basses époques, enfin avec un renouveau du culte et des pratiques religieuses traditionnelles.
Oui, il y a aussi un essor de la production de textiles et une intensification de l'agriculture dans la région de Babylone dans cette période, Francis Johannes.
Disons que les procédés traditionnels de l'irrigation n'ont jamais été interrompus, mais là ils sont développés tout particulièrement. Et puis la basse Mésopotamie était depuis longtemps un centre de production textile renommé, et ça se confirme à cette époque. Enfin donc de ce point de vue là, la région est prospère, mais n'est pas forcément l'une de celles qui est le plus intégrée dans le commerce international de l'époque. C'est
Pierre Briand.
Oui, je voudrais insister sur un point. Lorsqu'on parle des conséquences économiques de la conquête d'Alexandre, plus des successeurs, les rois hellénistiques, je pense que l'exemple que vient de donner Francis Johannes, et qu'il incarne lui-même la Babylonie, nous amène à dire une chose importante sur le plan de la méthode. On ne peut pas parler des conséquences économiques de la conquête d'Alexandre en général. le développement de chaque région, à l'époque achéménide, était très différent, très spécifique. Ce sont des sociétés différentes qui coexistent l'une à côté de l'autre, même en relation, mais en relation intime. Donc, on peut parler, il faut faire des études régionales en Égypte, en Babylonie, en Asie occidentale, en Bactriane, dans l'Indus, dans le plateau iranien, utiliser les ressources de l'archéologie beaucoup plus qu'on a fait jusqu'ici, de manière à comprendre finalement ce qu'est la poursuite de l'essor économique à l'époque hellénistique, car il y a eu un essor économique à l'époque achéménide tout aussi bien. Cessons de parler d'essor économique à l'époque hellénistique, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu une sorte de stagnation à l'époque achéménide, ce qui n'est pas le cas.
Mais sans parler de stagnation, on peut peut-être conclure, Francis Johannes, en disant que, certes, il y avait déjà un dynamisme commercial à l'époque des achéménides, mais tout de même, ce que l'on observe à partir de l'époque d'Alexandre le Grand, c'est une forte stimulation de ce commerce et un essor des échanges
Quantitativement, pas forcément, mais disons qu'il y a aussi de nouvelles routes ou de nouveaux produits qui interviennent dans le commerce, en particulier tout le commerce d'Arabie, par les caravanes justement qui remontent le long de la péninsule arabique et qui vont vers Alexandrie ou vers la Phénicie ou vers Antioche, effectivement connaissent à ce moment-là un très grand développement.
Merci beaucoup à tous les deux, Francis Johannes et Pierre Briand, de nous avoir éclairé ainsi sur les enjeux économiques des conquêtes d'Alexandre. J'envoie les auditeurs à votre ouvrage, Francis Johannes, La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, publié chez Belin. Et le vôtre, Pierre Briand, c'est Alexandre, exégèse des lieux communs, et il est paru chez Folio. Un grand merci encore à tous les deux.
Merci.
Merci.
Je rêve de te voir ce vendredi, portant une chemise à col ouvert. Tes longs cheveux sont un paradis, et que je veux voir sur un bord de mer. Je ne veux plus jamais te dire au revoir,
plus jamais.
Mon anniversaire c'est le bonjour,
c'est aujourd'hui.
Souffler mes bougies sous ton regard, à sentir tes doigts me pincer les joues. Je vois ta moustache frétiller quand tu vois tous ces fruits de mer. T'es mon plus bel invité, celui qui fait rire ma mère. Ne me ramène pas de cadeau, Philippe, car c'est toi mon cadeau. Le lapin qui sort du chapeau, mon magicien, c'est bien toi.
Philippe, viendras-tu à mon anniversaire?
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire du Nantais Mou avec Philippe Catherine. Demain, Calife Omar, Taxer les infidèles. Nous reviendrons sur les conquêtes arabes du 7e siècle avec l'historien Gabriel Martinez-Gros. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Ce soir, c'est ton anniversaire, tu es un cadeau.